I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu. On parle de jeux vidéo, de MMO, de nostalgie, de consoles, de toutes les news de l'industrie, joyeuses ou pas d'ailleurs. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir un an après leur apparition dans l'émission, dans cet épisode spécial où on parlait de leur parcours de développeurs indépendants ou des débuts de leur parcours, Tristan et Yannick de Centric Games. Comment ça va les jeunes ?
Salut Patrick, bah, ça va bien, et toi ?
Oui, bah écoute, moi ça va très bien, on replonge dans la nostalgie de World of Warcraft classique, on va parler de ça, on va parler de plein d'autres choses aussi, mais on disait avant de commencer l'enregistrement, tu me disais, ah, c'est cool de participer à un podcast parce que ça nous change du développement 24/24, où vous êtes encore la tête dans le guidon, j'imagine.
Ouais, c'est ça,
ouais. Ouais, vous êtes à fond. Ça avance, on en parlera en fin d'émission, mais ça avance bien, ces Lyon ?
Oui, ça avance bien, ouais. Ouais, c'est assez enthousiasmant, il y a des choses qui se passent, il y a des joueurs qui commencent à jouer, donc c'est assez cool. Mais effectivement, on aura le temps d'en parler.
D'accord.
Et puis dans cette actualité de WoW classique, notre jeu résonne pas mal, donc c'est assez cool.
C'est vrai que votre jeu, c'est un petit peu la substantifique moelle des combats de boss de jeux comme World of Warcraft et les MMO, donc ouais, ça vous rappelle des trucs. Bon, donc on va parler de classique, on va parler de plein d'autres choses, du mouvement, des scandales de harcèlement sexuel qui se sont fait jour il y a depuis quelques jours aussi. On va parler de plein de news diverses et variées. Mais commençons par le truc qui fait la une de, j'ai l'impression, de nombreuses publications de jeux vidéo ces derniers jours. C'est l'engouement, je vais dire inattendu et véhément, des joueurs pour World of Warcraft classique. Pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui auraient dormi dans une cave ces 15 dernières années, World of Warcraft, on ne va pas le présenter quand même, mais Blizzard a décidé de recréer l'expérience du lancement de World of Warcraft d'il y a 15 ans, donc le lancement de World of Warcraft, World of Warcraft Vanilla, et ils l'ont appelé World of Warcraft classique, et il a été lancé il y a, ça doit faire 3 jours.
Ouais,
c'est à peu près ça. Et depuis 3 jours, en fait, l'expérience du lancement de World of Warcraft a été recréée de manière assez fidèle, puisque les queues pour rentrer sur les serveurs sont absolument interminables, peut-être même pire qu'au lancement. Il y a des centaines de milliers de joueurs qui se précipitent sur le jeu. Et j'avoue que moi-même, je suis assez surpris. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi populaire, et la popularité, bon, sur ces 3 derniers jours ne se dément pas. Moi j'ai une relation assez ambivalente avec World of Warcraft classique, parce que pour ceux qui me suivent dans le monde du podcast depuis un moment, vous savez que j'ai commencé mon aventure avec Azeroth.fr, qui était un podcast entièrement consacré à World of Warcraft. J'adore le jeu et je l'adore toujours, j'y joue beaucoup, même si cette extension d'aujourd'hui, Battle for Azeroth, est moins populaire que certaines précédentes, et moi j'ai arrêté d'y jouer. Une extension comme Légion, qui était la précédente, était pour moi la meilleure extension de World of Warcraft de l'histoire. Le jeu a énormément changé. Vous savez aussi, je parle de mon histoire, mais j'ai travaillé pour Blizzard pendant 5 ans. Suite à mon implication dans les podcasts, je suis toujours très ami avec eux. Je joue à plein de jeux Blizzard. Enfin, j'adore World of Warcraft et Blizzard. Et pourtant, je suis très, très peu client de la nostalgie. Je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui est... le cas pour toutes mes activités, tous mes souvenirs, que ça soit pour les films, la musique. J'ai pas vraiment cette caractéristique que semble avoir le reste de mes compatriotes humains, qui est que on a une révérence immense pour les choses qu'on a aimées quand on était plus jeune. Et aujourd'hui, quand je pense à World of Warcraft au moment du lancement, j'en vois beaucoup les défauts et assez peu les qualités. Et c'est vrai que, je l'admets tout à fait volontiers, World of Warcraft, au cours des 15 dernières années, c'est beaucoup, entre guillemets, arcadisé. Ils ont, Blizzard a fait évoluer le jeu pour supprimer les aspects un petit peu contraignants du jeu et a facilité l'accès et facilité le gameplay, mais ce faisant, ils ont évidemment changé sa nature et ils ont supprimé certaines de ses contraintes et certains de ses aspects très RPG qui avaient et qui créaient évidemment des aspects positifs pour les joueurs, notamment dans l'interaction sociale. Ça a changé complètement la nature des interactions et l'identité des serveurs, par exemple. Et là, je viens à un sujet qui est important pour ce lancement de World of Warcraft Classic. L'une des caractéristiques du lancement, c'est que les serveurs, on devait, pour jouer, choisir un serveur. On était coincé sur ce serveur. Et s'il y avait... Enfin, coincé, on pouvait créer un autre personnage sur un autre serveur. Mais si on voulait jouer sur un serveur spécifique, on n'avait pas le choix. Et s'il y avait plein de gens sur le serveur, eh ben, on était mis dans une queue. Et on devait attendre parfois des heures pour pouvoir se loguer et jouer sur ce serveur. Et ils ont bien sûr voulu recréer techniquement la nature de World of Warcraft classique à l'époque, Vanilla. Et ça, ça veut dire forcément le fait d'avoir ces serveurs un petit peu figés. Parce que si on, y a des solutions à ces problèmes de serveurs et ces problèmes de population importante ou pas assez importante, mais si on implémente ces solutions, eh ben ça dénature le serveur et donc c'est plus tout à fait World of Warcraft Vanilla. Par exemple, le fait de mutualiser les populations des différents serveurs pour aplanir la quantité de population, c'est tout à fait possible. Bon, bien sûr, il faut plus de serveurs que ce qu'ils ont aujourd'hui. Ils ont clairement sous-estimé la demande pour World of Warcraft Classic, mais c'est possible de mitiger ces problèmes. Mais mécaniquement, ça change la nature de l'identité du serveur et les interactions qu'on a sur ces serveurs et les aspects sociaux. Et donc, pour moi, la manière dont je le vois, c'est que, mine de rien, ces problèmes sont des problèmes qui sont liés aux bénéfices qu'on retire et aux souvenirs nostalgiques qu'on a de World of Warcraft. Ce genre de soucis qu'on peut avoir, eh ben, ça crée aussi... Alors, le fait d'être dans la queue pendant des heures, évidemment, c'est l'aspect négatif, mais le fait d'avoir ces serveurs uniques dont on ne peut pas, pour lesquels on ne peut pas être mélangé avec d'autres serveurs, eh ben, ça crée ces identités de serveurs. Mais les deux vont ensemble, en fait. Le fait d'avoir des serveurs avec une forte identité va forcément faire que, bah, s'il y a plein de gens qui essayent de se connecter en même temps, ça va faire des queues. La contrainte technique est liée à l'avantage qu'on apprécie dans World of Warcraft, dans sa version de lancement. Et ça, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres dont on pourra parler, par exemple, dont on pourra parler plus tard. Mais donc, je suis très ambivalent là-dessus et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de gens qui reprochaient ce lancement compliqué de World of Warcraft sans voir, volontairement ou pas, que c'était lié à la nature même de ce qu'était World of Warcraft et à la nature même de cette serveur. On peut pas avoir l'un sans l'autre, pour moi. Et je sais qu'il y a plein de gens, des amis, des auditeurs qui me disent « Oui, mais moi, je veux pas le savoir, je veux jouer. » Et je comprends aussi ce sentiment, mais et puis il faut avouer, j'en suis tout à fait conscient, qu'ils ont sous-estimé la demande. Le problème, c'est que s'ils lancent le jeu avec trop de serveurs, de par le fait que les serveurs sont beaucoup plus figés, eh ben on se retrouve au bout de 2-3 semaines avec des serveurs qui sont vides et certains serveurs qui sont super pleins, et c'est impossible de faire passer les gens de l'un à l'autre parce que les gens veulent pas aller sur des serveurs vides et tout le monde veut aller sur les serveurs pleins. plein. Et s'il y a trop de serveurs, eh ben, il y en a plein qui se retrouvent complètement vides au bout de quelques semaines. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre que sur les 15 ans, il y a des dizaines, des centaines de millions, peut-être pas des centaines, mais plus de 100 millions de joueurs qui ont testé World of Warcraft dans leur histoire. Et il y en a plein qui vont tester classique au lancement. Et peut-être que ces gens-là vont rester 2, 3, 4 jours. Donc, si on a 15 millions de joueurs qui testent classique maintenant, bah forcément, ça provoque des problèmes. Mais on ne peut pas créer des serveurs pour ces 15 millions parce que sinon, dans deux semaines, quand on va dire 80% auront arrêté de jouer, eh ben, ils seront tous vides. Donc, c'est marrant parce qu'on se retrouve avec tous ces problèmes qui existaient à l'époque du lancement qui on ne peut pas résoudre parce que forcément, ce qu'on veut, c'est l'expérience du lancement. Et comme je le disais, techniquement, ça implique ce genre de contraintes. Mais bah oui, quand on a ce genre de contraintes, bah, personne n'est content. Donc ça, c'est ma vision de la chose. Vous, vous êtes développeur. Alors, vous êtes développeur sur des projets plus modestes. Mais est-ce que je me fourre le doigt dans l'œil ou est-ce que mon interprétation est juste ou est-ce que c'est moi qui essaye de défendre Blizzard coûte que coûte parce que je suis vendu à Blizzard. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez? Comment vous voyez toute cette histoire?
Bah, je pense que tu as complètement raison, mais à mon avis...
Ok, on peut s'arrêter là. Merci beaucoup Yannick, tu as complètement raison, c'est bon. Ok, on passe au sujet suivant. Pardon, vas-y. Bah,
c'est juste pour ajouter qu'à mon avis, Blizzard n'a pas vraiment sous-estimé la quantité de joueurs, mais que le fait d'ouvrir... Enfin, les lancements de MMO, tu as toujours ce calcul-là de combien de joueurs t'attends, combien de serveurs tu ouvres exprès... Et comme tu dis, qu'au bout de 3 semaines, il y a une grosse partie des joueurs qui sont partis. Et donc, potentiellement, il faut fermer ou fusionner des serveurs. Et du coup, Blizzard a fait ce calcul-là. Ce n'est pas leur première fois. Et je pense qu'ils ont volontairement mis peu de serveurs. Déjà parce que, comme c'est un jeu très contraignant, le nombre de joueurs, enfin, la proportion de joueurs qui vont s'en aller après va être plus importante que sur d'autres jeux. Et en plus, que finalement, le calcul est plutôt bon. Le fait qu'il y ait des files d'attente et que les gens parlent énormément, c'est ça qui fait le gros buzz de la sortie.
Ça, c'est sûr que ça joue dans le média zeitgeist. Je pense quand même que ils ont, enfin, je ne sais pas s'ils pourraient avoir assez de serveurs pour accommoder tout le monde. Là, on a des queues on voit des screenshots. Alors c'est le cas aux heures de pointe, évidemment, mais c'est marrant parce que c'était exactement le cas au lancement, et ça a duré des semaines, ça a duré des semaines. Les gens se souviennent pas bien, mais vas-y Yannick.
Non mais justement, j'allais dire, je suis assez d'accord avec vous deux et avec Yannick. Je pense qu'effectivement, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Je crois pas une seule seconde qu'ils aient pas les moyens d'ouvrir assez de serveurs pour accueillir leurs demandes.
Le problème c'est dans 2 semaines, quoi, ouais.
Ouais, mais oui, voilà, c'est ça. Mais ce que tu dis, c'est ça, c'est que il faut recréer l'expérience de l'époque. Et l'expérience de l'époque, c'était, on se connectait et on attendait. Enfin, moi, je m'en rappelle très bien. J'ai commencé le jour de la sortie de WoW. Tu te connectes et en fait, tu joues pas. Et là, tu trouves un IRC, tu trouves un TeamSpeak et avec des gens qui sont aussi là. Et c'est là que tu commences ton expérience de WoW, en fait. Tu as trouvé des
toi,
gens.
Toi, tu penses que c'est volontaire qu'ils voulaient que les gens soient dans des queues? Moi, je pense que c'est quand même un petit peu conspirationniste.
Moi, je pense qu'ils ont été jusqu'à recréer des serveurs. Ils ont récupéré du vieux code et ils l'ont même dû redévelopper pour remettre la fenêtre de 200 millisecondes d'envoi des buffers de commandes au serveur. Donc, ils ont quand même été jusqu'à vraiment recréer l'expérience complète. Et je pense qu'effectivement, aussi avoir des serveurs qui sont pleins avec des hypes de serveurs, parce qu'à l'époque, c'était ça, c'était « Ah, mais attends, t'es sur le serveur PVP machin, mais attends, je vais te rejoindre, parce que c'est le meilleur serveur, on sait qu'il y a les grosses guildes, etc. » Je pense qu'il y a aussi ce côté un peu, on crée quelque chose un peu gros, et puis on veut retransmettre une vieille expérience. Après, effectivement, c'est aussi dans le ça doit coûter aussi assez cher d'ouvrir des serveurs. Quand on regarde les structures serveurs
de WoW, moi franchement je pense pas que ça soit une question de prix, je me trompe peut-être, mais je crois que c'est une question d'estimation de la demande, parce que encore une fois, enfin oui, un petit peu de queue, c'était inévitable, ça je pense que tout le monde sera d'accord, il y aurait forcément un petit peu de queue. Là, c'est des queues qui sont monumentales. Elles sont, je ne me souviens plus exactement, je me souviens qu'au lancement, elles avaient duré des semaines. Là, je ne pense pas qu'elles dureront des semaines. Mais enfin des semaines et même des mois, ils avaient dû retirer le jeu de la vente parce qu'il y avait trop de gens sur les serveurs. Mais là, sur le moment du lancement, je me demande si c'est pas... non, c'est pas plus long. À l'époque, c'était des dizaines d'heures aussi aux heures de pointe, mais ouais, les gens pouvaient pas ça, jouer. Ouais. Mais moi, je pense vraiment que c'est une question de... c'est hyper difficile d'estimer la demande et donc on veut pas avoir trop de serveurs parce que... Il y a des gens... Les gens ne savent pas d'ailleurs, je sais pas s'ils se souviennent pas, mais ils savent pas non plus que... C'est pas facile de régler les problèmes de serveurs trop pleins et trop peu peuplés après, parce que les gens se disent ah ben on n'a qu'à offrir des transferts gratuits.
Ouais.
Mais en fait, les gens s'en foutent, ils veulent pas partir des serveurs pleins. Ils veulent juste pas. Avec transferts gratuits ou pas, les gens le font pas. Donc c'est un problème qui est vraiment difficile à résoudre, quoi. Mais.
Ouais, bon, et bah, après, je sais pas, peut-être qu'effectivement, ils ont sous-estimé. Moi, je vois plus, enfin, je trouverais ça étonnant que de la part de Blizzard, qui quand même ont un petit peu d'expérience dans le MMORPG, ils aient aussi autant sous-estimé. À mon avis, il y a quand même un petit côté marketing.
Peut-être qu'ils se sont
derrière.
Dit ça jouera. Ouais, le problème, c'est que même si tu estimes exactement ce que tu dois estimer avec ces technologie de serveur de l'époque, ce que tu dois estimer, c'est pas la population au lancement, c'est la population 2 semaines ou 3 semaines ou 1 mois plus tard. C'est ça que tu dois estimer. Et c'est pour ça que ça posait des problèmes sur tous ces types de jeux à l'époque, quoi. Il y a un autre aspect de cette nostalgie des jeux de l'époque qui est en partie, bien sûr, le fait de... c'est marrant, j'y pensais... En fait, j'essayais de comprendre pourquoi les gens étaient tellement enthousiasmés par le jeu tel qu'il était à l'époque. Et j'ai moi-même sous-estimé, si on parle de sous-estimation, je crois que j'ai sous-estimé non pas la nostalgie qu'ont les gens pour ce jeu, mais vraiment le plaisir qu'on retire de jouer de cette manière avec les avantages que créent ou les aspects positifs que créent ces contraintes dont je parlais. Je pense par exemple que je me suis connecté, j'ai joué un petit peu et il y avait des centaines de personnes dans Northshire Abbey où j'ai créé mon personnage humain, des centaines de personnes, et on avait bien sûr le fait de taper les mobs, c'est-à-dire que quand tu le touches pour la première fois, il est réservé à toi. Et comme il y avait des centaines de personnes, pour compléter les quêtes, c'était impossible. Il fallait genre 40 minutes pour tuer 10 mobs. Alors encore une fois, c'est une fonction du lancement, mais pour les mobs uniques qui n'apparaissent que toutes les 5 minutes, les gens formaient des queues, par exemple, là, au lancement. Et il y avait des queues de dizaines, voire même plus de personnes qui attendaient pour leur tour de tuer le mob pour finir leur quête. Et j'ai vu des messages de plusieurs personnes qui disaient « Ah, c'est ça que crée l'ambiance des MMO de l'époque, c'est super sympa et tout. » Et c'est vrai que ça crée ce genre de choses, mais je trouve qu'on a tendance à surestimer l'attrait de ces choses-là, parce que c'est marrant, 10 minutes, une demi-heure, peut-être, et les gens discutent dans la queue, c'est super marrant. Mais quand c'est un jeu auquel tu vas jouer une semaine, 2 semaines, 2 mois, 1 an, 5 ans, comme c'est le cas de World of Warcraft, l'évolution est normale, parce que une demi-heure, c'est marrant, mais quand tu y joues tout le temps, c'est plus marrant. Et la manière dont a évolué World of Warcraft, à mon sens, est complètement naturelle. Et si, c'est-à-dire que cette vision de World of Warcraft classique, c'était mieux, me dérange, parce que c'est mieux pendant 1 mois ou pendant 6 mois. Mais après, on est obligé de faire évoluer l'expérience pour que ça soit moins contraignant. Ceci dit, ce que j'ai réalisé grâce aux personnes qui m'en parlent et qui essayaient de m'expliquer pourquoi ils appréciaient, c'est aussi à quel point on a perdu de ce fait l'aspect RPG plaisant. Et je me demande s'il n'y a pas des moyens pour Blizzard de réintroduire les aspects RPG de World of Warcraft de l'époque sans en réintroduire du même coup les contraintes. Moi, je ne sais pas si c'est possible. Ils ont fait, par exemple, avec les donjons mythiques où on ne peut pas se regrouper facilement, on ne peut pas utiliser l'outil pour trouver des groupes automatiquement. Il faut le faire vraiment à la main. Ils ont recréé un petit peu cette expérience. Mais comme l'autre version est disponible aussi pour les donjons plus faciles, eh ben, la plupart des gens utilisent cette version. Et le fait de supprimer les outils pour trouver des groupes, eh ben, oui, ça créerait des trucs marrants, mais je suis très curieux de voir les gens qui sont sur Classic. Quand ils vont devoir passer une demi-heure dans le chat pour trouver un groupe, puis 20 minutes pour voyager jusqu'au donjon, et le donjon va faire une heure et demie, si cette expérience, c'est 3 heures de jeu, je ne suis pas sûr que les gens l'apprécient sur le long terme. Et ils n'ont pas besoin de l'apprécier sur le long terme, même s'ils prennent plaisir à jouer comme ça pendant, je ne sais pas, un mois, et ben c'est quand même un truc qui leur aura fait plaisir. Mais si on pense à World of Warcraft comme un MMO qui dure sur plusieurs années, ce type d'expérience n'est pas tenable. Et c'est pour ça que World of Warcraft a évolué. Donc, opposé classique et moderne, pour moi, est un faux débat, parce que classique ne peut pas rester tel quel pour le grand public qu'il est sur le long terme. Il évolue forcément en moderne. Mais je ne sais pas, peut-être qu'ils auront un moyen de réintroduire ce plaisir qu'on trouve dans classique dans la prochaine extension ou dans une après. Ça serait cool d'avoir le meilleur des deux mondes. Mais voilà, c'est des réflexions un petit peu pêle-mêle pour moi, et vous comprenez que je suis très impliqué dans la chose parce que World of Warcraft a constitué ma vie depuis 15 ans presque. Mais j'ai dit beaucoup de choses. Est-ce que vous avez des choses à ajouter ? Excusez-moi, je parle beaucoup, mais sur ces questions ?
Bah, t'as raison. Mais en fait, c'est vraiment deux styles de jeux différents. Dans le sens où le MMO hardcore, comme l'est la version classique, c'est vraiment un jeu de niche et qui, comme tu dis, ne pourra pas attirer tous les joueurs. Et ce qui se passe, c'est que depuis le début de WoW, c'est une progression normale d'une boîte, mais l'objectif de Blizzard, c'était d'attirer de plus en plus de joueurs. Et ça les a conduits forcément à casualiser leur jeu, à faire en sorte qu'il y ait moins de contraintes et que, par exemple, on puisse s'en sortir très bien tout seul sans avoir aucune interaction sociale. Et c'est le cas même pour faire des raids. Maintenant, on peut les faire en LFR, en des plats, en avance tout droit, et puis personne s'organise particulièrement. Et du coup, à mon avis, là, pour l'instant, il y a cette hype sur le lancement de WoW Classic où un peu tout le monde s'y essaye, mais je pense qu'il y a déjà pas mal de personnes qui ont laissé tomber, soit par les files d'attente, soit parce qu'ils ont mis 3 heures à gagner 5 niveaux. Et c'est le temps que le rush de l'XP se fasse et que les joueurs les plus rapides atteignent le niveau maximal, fassent leur quête, tuent Ragnaros. Après, on verra ce que ça va donner, mais je pense que s'ils gardent cet aspect classique en suivant un ajout régulier du contenu, ils auront toujours du monde, mais vraiment une population de niche de joueurs très très hardcore. Mmh. Et c'est vrai qu'on perd forcément certains aspects en casualisant, que ça en fait pas un jeu moins bien pour autant. Enfin, il faut les deux à mon avis.
Ouais, ouais, je suis d'accord. Je pense que, tu vois, c'est comme quand WoW est sorti, il y avait beaucoup de gens qui jouaient à L2. Et L2, tu perds des niveaux, tu perds de l'XP quand tu meurs, tu perds tes niveaux.
Qu'est-ce que tu appelles L2 ?
Lineage 2.
Ah, d'accord, oui.
Le jeu coréen. Et donc, il y avait plein de gens qui jouaient. Moi, j'étais un gros fan aussi. Et du coup, tu as ce côté un peu hardcore que des gens aiment bien. Et c'est ce que dit Yannick, en fait. C'est que c'est pas le même public. Effectivement, il y a toujours la nostalgie. Alors, moi, je suis pas du tout. Je suis un peu comme toi. Je suis pas très nostalgie des vieux jeux et des vieux contenus. Donc, ça me parle pas trop, même si là, par curiosité, j'aurais bien été voir quand même.
Attention, mets pas le doigt dedans.
C'est un problème d'addiction au MMO. Mais du coup, je pense qu'il y a plein de gens, effectivement, qui veulent voir ce que c'est comme expérience. Ils vont vite se rendre compte que c'était les MMO de l'époque où c'est dur. Ça prend du temps, ça demande vraiment un investissement. Et du coup, ils vont repartir, mais ça va garder les populations de joueurs qui, finalement, par WoW normal, avec l'évolution, s'étaient retrouvés un peu en se disant on a un jeu qui est plus casu. Et effectivement, il faut voir ce que vont en faire. En fait, c'est ça, c'est à mon avis, la vraie expérience commencera quand ils vont commencer à rajouter du contenu, s'ils le font, ou ce qu'ils vont rajouter et comment ils vont le faire. Est-ce qu'ils vont arriver à garder leur ligne de conduite, la ligne directrice de WoW Classic, c'est-à-dire un truc un peu, vraiment dur, avec des choses pénibles, mais qu'on aimait bien, que certains aimaient bien. Quand on joue au MMO coréen, on sait qu'il y a du farming, il y a des choses qui sont compliquées, qui sont longues et fastidieuses, mais en même temps, Ça fait aussi l'attrait de ces jeux-là. Et donc,
ça voilà, serait marrant qu'ils rajoutent les extensions, par exemple, sans ajouter les outils de recherche de groupe, sans ajouter le fait de pouvoir tous tuer les mobs dans les quêtes, même si quelqu'un l'a touché en premier. Ouais, ça pourrait être une expérience intéressante, c'est sûr.
Et là, je pense que ce sera une bonne évolution. On aurait deux jeux qui seraient complémentaires, en fait. Et qui, effectivement, moi, le côté... tu vois, t'en parlais, j'avais complètement oublié ça. Qu'on passait 2 heures à trouver un tank, un heal pour aller faire son instance, quoi. Et que t'étais sur tes chats et que t'allais chercher sur le forum de ta guilde, t'allais voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui était connecté, qui ne voulait pas venir te dépanner. J'avais complètement oublié cette partie-là, quoi.
Et en plus, il faut aller jusqu'à Skolomance ou Dire Maul, et le donjon, après, il dure 1h30. Mais vraiment, je veux dire, c'est 1h30.
Et puis le mec, il se reconnecte, c'est ça. T'as trouvé ton tank, il se reconnecte, et puis il fait « Ah mince, je me suis déconnecté à Azeroth, là, j'en ai pour 1 heure de cheval, quoi. » Enfin, c'est un peu ça.
C'est ça. Mais c'est vrai que ça serait cool qu'on ait les deux expériences en parallèle. C'est marrant parce qu'à l'époque où World of Warcraft s'est lancé, moi, je jouais à EverQuest 2, et les gens qui étaient des fans d'EverQuest, du 1 et en partie du 2, disait mais World of Warcraft en version classique, hein, c'est beaucoup trop casual, c'est beaucoup trop arcade, c'est pas une vraie expérience sociale, etc. Donc c'est marrant d'essayer de voir comme le juste milieu est difficile à trouver. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein de gens qui sont hyper contents de jouer à classique, et moi je suis hyper content pour eux. Qu'ils aient joué à l'époque ou non, d'ailleurs, qu'ils redécouvrent ou qu'ils découvrent cette expérience, c'est hyper cool que ça soit possible. Et y a cet aspect aussi quand on parle de nostalgie, auquel j'avais pas pensé avant, mais c'est vrai que World of Warcraft, c'est l'une des seules expériences au monde qu'il est difficile de recréer aujourd'hui. Certainement dans le domaine du jeu vidéo, si on veut jouer à un jeu vidéo d'une certaine époque, on a toujours plus ou moins un moyen. Surtout un jeu vidéo qui est aussi populaire que World of Warcraft, il y a toujours un moyen. World of Warcraft, c'était juste plus possible d'avoir cette expérience. Donc il y a plein de gens qui voulaient, en fait, je crois, en partie, revivre cette période de leur vie. Enfin, c'est pas qu'ils voulaient le revivre, mais c'est que pour tous les trucs où on se dit « Ah, j'adorais cet album », eh ben, si on veut revivre cette période de notre vie, on peut. Pour World of Warcraft, c'était juste pas possible. Donc c'est aussi pour ça, je crois, que c'est un tel événement et que ça fait tellement plaisir à tellement de monde. Mais je veux être clair sur ce point aussi. Moi, je suis super content que ça soit possible et qu'il y ait plein de gens qui le découvrent et qui prennent du plaisir. Et j'espère qu'il continuera à prendre du plaisir longtemps. Et c'est quelque chose de très positif, quoi. Et je suis content pour le coup que Blizzard ait fait l'effort et que ça, je pense qu'ils en tirent des bénéfices, hein, c'est sûr, mais ils aient fait l'effort de faire ça, donc c'est très cool.
Ouais, moi aussi je trouve que c'est bien. Enfin, et puis c'est intéressant. Je trouve que, et puis même, alors pour voir un autre aspect, techniquement pour les développeurs, c'était hyper intéressant parce que tous les problèmes techniques que t'expliques de serveur, recréer ces choses-là, ces histoires de buffer d'envoi avec les, ils avaient plus le code. Enfin, moi j'ai lu des articles sur les développeurs, ils avaient plus tous ces codes-là qui étaient obsolètes. Et du coup, pour pas voir que l'aspect joueur, l'aspect aussi pour les développeurs de la boîte, il y a des challenges intéressants. Et c'est plutôt cool. Enfin, je trouve que c'est bien. Moi, je suis assez content qu'ils aient fait ça.
Ouais. Bon. Donc, on verra dans les semaines et les mois à venir comment ça va évoluer. Ouais, vas-y.
Ouais. En fait, c'est pas les premiers à sortir une version classique. Il y a déjà quelques années.
Mais je crois qu'EverQuest a refait ça, non ?
Aussi, mais surtout, Dofus avait relancé un vieux serveur. À la demande des joueurs et ça a super bien marché puisqu'il y a une partie des joueurs qui n'aiment pas que le jeu devienne plus rapide peut-être parce que là tous ces joueurs là c'est l'investissement en temps qu'ils peuvent y consacrer et du coup ils aiment bien que ça continue d'être valorisé. En tout cas sur Dofus ça avait super bien marché tellement que ça a coupé il n'y a pas longtemps à cause d'un abus. Il y avait un bug qui permettait complètement d'abuser le jeu. Mais ils vont relancer une version de Dofus Retro dans pas longtemps.
Ouais.
Et puis ça aussi, on verra ce que ça donne.
Bah, EverQuest, par exemple, si vous voulez une vraie expérience MMO hyper RPG de hardcore de l'époque, vous pouvez aujourd'hui aller jouer à EverQuest. Alors, je ne vous le recommande pas parce que pour le coup, c'est même 10 fois plus hardcore que WoW Classic, mais c'est possible. Il y a des gens qui adorent et qui jouent encore. Et le jeu à EverQuest, il a 20 ans, quoi. Donc, Et d'ailleurs, si on parle de nostalgie, c'est marrant parce que les petits jeunes qui jouent à Fortnite sont déjà en train de se plaindre de changements. Il y a des changements assez majeurs dans la manière dont se font les constructions dans Fortnite. Qui est en train d'implémenter Epic. Et les constructions, pour ceux qui connaissent un petit peu Fortnite, c'est hyper important dans le jeu. Et donc, avec ces changements, il y a plein de gens qui se plaignent de l'époque, qui se souviennent avec, entre guillemets, nostalgie de l'époque du lancement de Fortnite et qui disent « Ah, ça, c'était le vrai Fortnite, c'était vraiment le Fortnite cool, aujourd'hui, tout a changé, etc. » Et c'est marrant de voir ça parce que le Fortnite a 2 ans, quoi. Donc, mais c'est vrai que le jeu a évolué. Mais... Et je pense que, autant... Il y a plein de gens qui ont vraiment une véritable appréciation pour la nature de ces jeux à l'époque. Je pense sincèrement qu'il y a la nostalgie qui joue aussi pour cette appréciation. Et je ne sais pas si c'est 50-50 ou 80-20 ou dans quel sens, j'en sais rien. Mais, et ce n'est pas une mauvaise chose. Tant mieux, c'est cool de pouvoir revivre des trucs nostalgiques de l'époque. Mais c'est ce qui me dérange, en fait, c'est quand les gens substituent à leur nostalgie des appréciations objectives. Genre, à tel moment, c'était mieux, objectivement, au niveau gameplay, et que les gens ne veulent pas voir ou admettre que la nostalgie joue aussi. Et c'est ça qui me... En fait, c'est des aspects qui sont, pour moi, pas objectifs. Et c'est ça qui me titille, en fait. Mais je nie pas du tout le fait qu'il y a aussi des éléments objectifs dans cet amour.
Après, je pense que... L'appréciation des jeux est très subjective aussi. Je sais que très souvent, quand j'ai eu un sentiment comme ça de c'était mieux avant, au final, c'est un petit détail que j'aimais bien qui avait disparu. Et rien que le jeu sans ce petit détail avait moins de valeur pour moi. Et ça joue vraiment à des trucs minuscules comme ça. Et au final,
c'est sûr,
les patchs ne peuvent pas contenter tout le monde.
Non, mais c'est sûr, mais moi, ce qui me... En fait, là, j'y réfléchis en même temps et je réfléchis avec vous, mais le cheminement intellectuel qui me dérange, c'est de se dire, le jeu tel qu'il était avant était meilleur, et donc, s'il était toujours comme ça, j'y jouerais pendant des mois et des années. Et je pense sincèrement qu'on peut prendre plaisir à ces jeux-là pendant quelques jours ou quelques semaines avec la force de la nostalgie, mais pour la plupart des gens, je pense qu'ils se mentent à eux-mêmes quand ils pensent qu'ils y joueraient aussi longtemps que la version moderne qui a supprimé ses défauts. Et peut-être que je me trompe, c'est vraiment juste mon appréciation, peut-être que je me trompe, mais d'expérience, ce que je vois généralement dans ce type de discussion, c'est que on constate bien que les gens qui jouent à EverQuest, aujourd'hui, ils sont quelques dizaines, peut-être une centaine de milliers, je ne sais pas, mais ils ne sont pas des millions. Et de la même manière, on saura peut-être jamais combien de gens concrètement jouent à Warcraft Classic, mais à mon avis, ce que j'essaye de dire, c'est que beaucoup de gens qui disent, je ne parle pas des gens qui disent « Ah, j'aimerais jouer à Warcraft Classic pour voir ce que c'est, y jouer une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. » Je pense aux gens qui jouent à Warcraft moderne aujourd'hui, qui y jouent depuis 10 ans et qui disent « Ah, mais c'est classique, c'était mieux à l'époque. » Et je pense que parmi ces gens-là, il y a très très peu de ceux qui disent « C'était mieux avant » qui effectivement joueront à cette version d'avant. Je ne sais pas si je suis clair dans mon explication.
Si, tu vois. Mais je pense qu'en fait, ils se mentent pas vraiment. Je pense qu'ils y croient, dur comme fer, mais ils ne se rendent pas compte.
Ouais, c'est peut-être une meilleure manière de le dire, tu as raison.
Ouais, ils doivent pas se rendre compte de... Parce que mine de rien, chaque mise à jour apporte du contenu, mais apporte aussi de la nouveauté. Et la nouveauté, finalement, ça te fait rester, ça casse ta routine, etc. Et donc, les joueurs aujourd'hui, WoW Classic, c'est un peu une mise à jour qui rapporte de la nouveauté. Et c'est un peu ça, ils se disent « Ah ouais, en fait, c'est vrai que c'était vraiment super, j'y jouerais pendant 10 ans si c'était comme ça. » Mais en fait, ils y croient aujourd'hui, et c'est vrai que, comme tu dis, dans 6 mois, quand ils auront fait tout le contenu, qu'ils se seront... taper des files d'attente, de recherche d'instances, etc., ils vont avoir ce côté « Ah bah non, un peu, j'en ai un peu marre, la routine, ça commence à être fatigant. » Et c'est là où les mises à jour rajoutent aussi un peu d'attrait et transforment ton jeu, forcément. Mais je pense qu'ils y croient vraiment. C'est juste qu'ils ont ils ont peut-être pas le recul de se dire oui, mais effectivement, je joue depuis 10 ans à WoW parce que il y a eu ça, 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 et que ouais. Le jeu en est là aujourd'hui grâce à toutes ces mises à jour et tous ces ajouts. Et là, WoW classique, en fait, c'est plus pour moi, c'est comme si tu faisais une extension. Tu fais une extension de WoW qui s'appelle WoW classique, qui revient.
C'est marrant, ouais,
on voit ça comme un retour en arrière, mais en fait, ça pourrait être un nouveau jeu finalement. Et la hype des nouveaux jeux, elle est là partout au final.
C'est marrant de voir les choses comme ça. Classique, c'est un petit peu une extension de WoW, c'est vrai. Mais je dirais deux choses pour me tenir à mon mot. Je comprends la nouveauté avec le contenu. Oui, je pense que c'est nécessaire, même si on reste dans le type de gameplay de classique. Mais ce que les gens qui aiment WoW classique, c'est peut-être des nouveautés de contenu, mais sans les changements structurels qui rendent le jeu plus arcade. Et moi, ce que je dis, c'est-à-dire que si ces gens-là continue à jouer pendant 6 mois, déjà, je trouverais que je me suis trompé. C'est-à-dire que, pour moi, les gens qui disent « Ah, je préférais la manière dont c'était avant », pour la plupart d'entre eux, pas tous, bien sûr, il y a des gens qui apprécient vraiment tout ça, mais la plupart d'entre eux arrêteront de jouer assez vite, bien avant les 6 mois, parce que ils se trompent dans leur appréciation de à quel point ces éléments contraignants sont appréciables sur même 2 mois, quoi. Pour moi, d'ici 2 mois, 80% des gens auront arrêté de jouer, ou même peut-être plus. Et c'est très bien. Heureusement je suis très content qu'ils aient eu cette expérience pendant quelques semaines. Déjà, c'était cool. Mais ce que je pointe du doigt, même pas que je critique, c'est que il y a une certaine, intellectuellement, c'est pas une malhonnêteté intellectuelle, mais un errement intellectuel quand on se dit ces contraintes-là faisaient du jeu un jeu plus viable sur le long terme. L'expérience sur quelques semaines ou quelques mois, oui, c'est cool, mais sur le long terme, pour la plupart des gens, c'est juste trop contraignant. Et ça, beaucoup de ceux qui critiquent WoW aujourd'hui ne s'en rendent pas compte. C'est ça qui me titille. Je ne sais pas si j'explique bien. Ouais. Mais...
Non, si, je suis d'accord. Ouais. Mais, vas-y, quand tu...
Mais non, je suis tout à fait d'accord aussi. Je pense que... S'il y a des gens qui partent dans l'optique que sans rien changer, ils vont passer des années sur WoW classique, c'est très très idéaliste.
Ouais, ou même des mois. Enfin, on verra. Ce qui serait cool pour le coup, vous avez eu une idée aujourd'hui qui me paraît vraiment intéressante pour les joueurs qui apprécient classique, c'est effectivement l'idée. Est-ce que c'est possible, je sais pas, mais de rajouter le contenu sans changer la structure de gameplay. Si ça plaît aux gens, ça serait génial d'avoir d'un côté WoW moderne avec le LFG et le je sais pas toutes ces facilités de jeu de gameplay qui le rendent hyper arcade, et de l'autre côté peut-être même à terme la même version mais sans tous ces outils, pour à mon sens une population qui serait beaucoup plus restreinte mais qui adorerait peut-être le fait d'avoir cette version du jeu, quoi, et que les deux puissent vivre en parallèle. Imaginez un World of Warcraft qui a tout le contenu de World of Warcraft aujourd'hui mais avec le style de gameplay de l'époque du lancement aussi rigoureux, je pense que ça serait une expérience hyper positive pour tous ces gens qui l'apprécient, quoi. Ça serait une idée marrante.
Ouais, je pense que ça peut être une évolution intéressante, ouais.
Ouais, et puis même, à mon avis, c'est vraiment une question d'atout que tu as en tant que joueur, et que quand tu as un jeu à contraintes, rien que le fait, en tant que joueur, de supporter des contraintes, c'est déjà un accomplissement. Et du coup, les joueurs qui en sont capables tirent une fierté,
un plaisir,
une récompense
ouais.
de ça. Voilà.
Bon, écoutez, je pense qu'on a fait beaucoup, beaucoup plus long que j'aurais pensé sur World of Warcraft. J'aurais dû penser que ça serait le cas, hein. World of Warcraft,
oui,
c'est,
bah ouais, c'est
une
ça. Enfin, c'est quand même un monstre WoW classique. Donc.
Ouais, c'est sûr. J'espère qu'on a réussi à bien analyser tout ce phénomène. Je suis sûr que beaucoup de gens ont des choses à dire sur ces sujets. Donc, n'hésitez pas à venir commenter si vous pensez que j'ai raconté n'importe quoi ou qu'on a mis le doigt sur des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé, peut-être, dans les notes de l'émission, enfin sur le site, sur frenchspin.fr. N'hésitez pas à venir le faire. Une petite note, puisqu'on parlait de Blizzard, il semblerait que Overwatch arrive sur Nintendo Switch. Il y a c'est un petit indice, hein, sur Amazon, il y a eu un accessoire pour Switch avec branding Overwatch. Donc peut-être que d'ici quelques semaines, il sera annoncé. On verra. Parlons de d'autres sujets. Alors, les jeux qui sont sortis récemment, on va pas trop en parler parce qu'aucun d'entre nous n'y a joué, mais des jeux qui ont, enfin, des jeux qui ont des super reviews, Dicey Dungeons, Control, Astral Chain. On en parlera peut-être dans les semaines à venir, mais enfin, la période de la rentrée arrive et il y a plein de jeux qui commencent à arriver, mais ces trois-là, Dicey Dungeons est sorti il y a quelques semaines déjà, mais ces trois-là ont des super reviews. Control peut-être un tout petit peu en dessous, mais quand même beaucoup plus positif que ce que j'imaginais, moi. Et bon, Astral Chain, Platinum, forcément, c'est un événement. Donc, pour certains, peut-être pas forcément pour moi, mais bref, on en parlera peut-être à un moment. Je profite du fait que je vous ai, vous, en tant que développeur indépendant. Il y a deux éléments que je voulais vous soumettre. D'une part, votre avis sur l'Epic Game Store et les controverses que je ne vais pas redévelopper, mais il y a le jeu Hades qui était disponible en accès anticipé sur l'Epic Game Store, qui va arriver sur Steam en décembre, donc il sera disponible sur les deux plateformes. Et il y a la question de l'exclusivité sur l'Epic Game Store, qui est très controversée par certains joueurs un petit peu énervés. Et puis la question du pourcentage de commission que prend l'Epic Game Store par rapport à Steam, qui est beaucoup plus faible sur l'Epic Game Store, donc motivant. Et puis il y a aussi, on commence à avoir des news sur l'Apple Arcade, donc ce système d'abonnement qui devrait coûter 5 euros par mois, qui met en avant des jeux entre guillemets payants sur iOS et ouais, qui sera cross-plateforme entre guillemets sur iPad, iPhone, Apple TV, Mac, et on pourra utiliser nos manettes de console. Donc il y a ces deux plateformes sur lesquelles j'aurais aimé avoir votre avis en tant que dev indépendant. C'est des choses auxquelles j'imagine vous n'avez pas forcément besoin de penser encore énormément, mais ça commence à être dans le coin de votre tête. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux plateformes et des controverses ?
Alors, pour les plateformes, en fait, on y pense. Alors, je pense, enfin, nous, on fait un jeu multi, donc on y a pensé dès le départ. Parce que faire un jeu multi, ça veut dire avoir une liste d'amis, ça veut dire avoir des serveurs, etc. Et finalement, le choix du store est quand même assez crucial, puisque tu as une API pour aller coder, enfin, t'as des blocs de code qui te permettent d'utiliser, par exemple, une liste d'amis Steam, une liste d'amis Epic, etc. Et chaque plateforme a son propre code. Et ce qui fait que quand tu fais un choix technique d'une plateforme, bah, tu codes aussi ton jeu avec ces outils. Donc, soit tu te dis, bah, je vais essayer d'avoir tous les stores possibles, donc il faut que tu fasses ce qu'on appelle une surcouche, donc tu rajoutes un bloc de code qui, toi, te permette de brancher n'importe quel store, ou alors que, effectivement, tu fasses un choix et que tu dises, bah, je n'utiliserai que cette plateforme, et si tu places sur une autre plateforme, ça te demande de redévelopper. Donc, finalement, les choix des plateformes est quand même vient assez vite dans le développement d'un jeu multi, enfin, à mon sens, il faut que ça vienne assez vite.
Et j'imagine que pour une petite équipe, généralement, on fait le choix d'une seule plateforme.
Alors nous, on a fait... Ouais, vas-y, Yannick, réponds.
Bah, en vrai, non, pas forcément. On peut faire ça, peut-être une toute petite équipe. Mais déjà, à notre niveau, toute cette partie, base de données, sauvegarde, liste d'amis... Il y a d'autres systèmes qui permettent de le faire, d'autres API qui sont, elles, palliées à une plateforme. Et pour l'instant, c'est là-dessus qu'on est, pour se laisser l'opportunité d'être sur plusieurs plateformes différentes. Parce que je pense qu'en tant qu'indé, plus on en a, mieux c'est, surtout si on s'arrange pour que ça ne nous coûte pas trop cher. Et éventuellement, l'idéal, c'est d'essayer de négocier un deal d'exclusivité si on a généré assez de hype. Comme peut le négocier l'Epic Game Store. Après, d'accord. Sur les plateformes en général...
Du coup, la question sur l'Epic Game Store, avec leur commission réduite, vous, en tant que développeur, je sais que, comme je le disais, ça crée beaucoup de controverses parmi les joueurs, et à mon sens, ce n'est pas forcément les joueurs les plus raisonnables, mais vous voyez ça comment, la différence entre l'Epic Game Store et Steam, en tant que dev ?
C'est ça qui va encourager à se mettre aussi sur l'Epic Game Store, puisque on sait qu'on aura beaucoup moins de joueurs, simplement parce qu'il y a beaucoup moins de comptes sur l'Epic Game Store et de passage, mais que comme il y a une commission moindre, on devrait s'y retrouver financièrement. Après, il faut avouer que l'Epic Games Store est peut-être, à mon avis, sorti un peu trop tôt au niveau des fonctionnalités de magasin. Puisque si t'es pas une exclue mise en avant par eux, c'est vraiment dur de te trouver. Alors que Steam, avec ses dizaines d'années, y a énormément d'algo qui vont te suggérer à des joueurs qui ont joué au même genre de jeu que toi. Et ça, ça marche super bien. Nous, maintenant qu'on a la page Steam en ligne, on a les analytics de tout ça. On voit qu'on reçoit quand même pas mal de visites sans faire aucune com. Juste parce qu'on est rentré dans des tags de suggestions pour les joueurs ou de suggestions par rapport à d'autres jeux qui ressemblent un peu. Et ça, ça manque cruellement à l'Epic Game Store.
Ah, intéressant, je savais pas du tout ça.
Alors, et moi, mon point de vue plus financier, parce que je m'occupe un peu de ça chez Century Games, c'est que en fait, je trouve que c'est bien d'avoir un concurrent, même après qu'il ait ses défauts. Hein, mais bon, il y en avait plusieurs. Il y a plusieurs petits stores qui sont ouverts. Mais Epic, on sait que c'est une grosse structure. On sait qu'ils peuvent faire un peu peur à Steam. Et du coup, ça va peut-être forcer. Et d'ailleurs, Steam a déjà fait un premier pas en disant bah, maintenant, on fait des commissions réduites en fonction du nombre de ventes, etc. Et donc, je pense que c'est bien d'avoir aussi quelqu'un qui ébranle un peu les grosses structures pour dire attention, c'est bien.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ça fait 10 ans que t'es là, c'est super ce que t'as fait. T'as aidé énormément le jeu vidéo parce que ça permet d'avoir plein de jeux à disposition. Mais t'endors pas sur tes lauriers, nous on est derrière, on propose des choses, etc. Et ça va peut-être aussi montrer à Steam, bah, faites peut-être un effort aussi pour la communauté, pour les développeurs indés, pour réduire un peu vos commissions et puis lisser un peu tout ça avec des choses qui, pour nous développeurs, seront peut-être plus du coup. Qui nous donneront un peu plus d'oxygène parce que 30% quand même de commission, c'est énorme chez Steam. Et quand on fait ces business plans, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'argent qui part en taxes. Et c'est vrai que de réduire tout ça, d'avoir de la concurrence, ça va permettre peut-être de réduire un peu tout ça. Alors, je m'avance peut-être, mais en tout cas, j'espère que ce genre de concurrence va continuer et va permettre de faire des choix et d'avoir plusieurs plateformes. Alors après, c'est vrai que c'est chiant d'avoir plusieurs plateformes, mais bon.
C'est comme dans tous les marchés, s'il y a quelqu'un qui a un quasi-monopole, c'est jamais bon.
Ouais. Je pense qu'on est. C'est cet aspect que je mets souvent en avant et que la question des exclusivités est un outil que l'Epic Game Store est obligé d'utiliser parce que sinon.
Ouais, c'est ça. Je pense que c'est le seul qu'ils ont. Ouais.
Et pour ce qui est de l'Apple Arcade et du modèle avec abonnement, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, mais du coup, ça étouffe les petits devs, ça veut dire qu'ils peuvent plus… » Ça réduit l'idée de la valeur des jeux parce que tout le monde pense qu'il faut avoir les jeux entre guillemets gratuitement en étant abonné. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Il y a plein d'éléments à prendre en compte, mais vous pensez ?
Non, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord non plus. Je pense qu'en plus, là, Apple, ils ont l'air de dire que de toute façon, ce qu'ils mettent dans leur Apple Arcade, c'est des jeux qu'ils ont aussi financés, puisqu'ils font des partenariats, etc. Pas tous, mais enfin, ils ont leur bibliothèque de jeux qu'il y a sur Android, sur leur store, là. Mais aussi, ils ont des exclus Apple Arcade, si j'ai bien compris ce qu'ils en disent, ils ont des exclus sur lesquels ils ont travaillé. Alors peut-être qu'ils mettent pas d'argent, mais en tout cas leur com.
Ils mettent de l'argent, ils ont financé. Ouais.
Mais du coup, je pense que nous, par exemple, indé, on va pas forcément pouvoir être sur l'Apple Arcade tout de suite, mis à part passer par le store, auquel cas ça va pas changer grand-chose parce que de toute façon, quand tu passes par le store mobile, au final, ton jeu, tu gagnes quelques Steam quand les gens achètent ou ont des pubs. Faut voir combien est renvoyé par rapport à l'abonnement, j'en sais rien. Là, c'est difficile, sans savoir le deal qui est fait derrière, c'est difficile de dire si jamais c'est bénéfique ou pas pour un studio. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même... Il y a ce côté, effectivement, peut-être que ça rapporte pas beaucoup, mais ça fait de la notoriété. Donc, si c'est pas une exclue Apple Arcade, de toute façon, ça peut aussi faire venir les gens sur l'Android Store, sur le Windows Store, je sais pas quoi. Enfin, faut voir aussi que les indés, il faut qu'on se diversifie. Et notre gros problème, c'est la communication, c'est se faire connaître. Et si un store comme ça, avec un moindre coût, fait connaître notre jeu et en fait parler, parce qu'il suffit d'un influenceur hein, qui tombe sur quelqu'un qui fasse parler du jeu pour que ça décolle. Pour moi, c'est pas... Moi, j'y vois pas le mal.
En fait, quelque part, ça rejoint un peu la méthode de commencer sa carrière en proposant des jeux gratuits, ce que pas mal de gens font. Quand tu regardes, bah, même le gars de Dicey Dungeon qui a fait VVVV, etc., avant, il a fait plein de petits projets gratuits, et ça, c'est juste pour construire une notoriété. Et maintenant, s'il lance un crowdfunding, par exemple, rien que cette expérience-là va lui permettre de le réussir super bien.
Mais je pense que la crainte, c'est que du coup, tout devient gratuit ou assimilé gratuit. C'est ça dont les gens ont peur. Mais vous avez l'air de me dire qu'on n'y est pas encore, quoi. Il y a quand même... Alors,
moi, j'ai un peu peur qu'il y ait une baisse en qualité. Parce que y a ce côté où tous les développeurs coopèrent, puisque au final le gain, enfin ça dépend du deal encore une fois, mais le gain dépend en partie du nombre de gens globalement sur la plateforme. Mais ça fait que c'est dur de faire quelque chose de juste en fonction de la qualité de ton jeu, et que ça t'encourage peut-être à... Enfin, ça va forcément encourager des gens à faire des trucs pas très chers, pas très bien non plus, mais qui s'arrangent pour faire passer là-dessus et récupèrent une part du gâteau.
Bah, ça, ensuite, c'est à Apple de choisir les jeux qui sont disponibles sur l'Apple Arcade pour l'abonnement. Il faut effectivement que la qualité du truc soit respectée. Mais,
dit Tristan aussi, ça dépend du deal. Il y en a qui... Enfin, il y a des... potentiellement un système de gain en fonction du temps que les gens passent sur ton jeu. Mais même ça, c'est un peu biaisé, parce que tu peux avoir des jeux excellents qui ne sont pas très longs, par exemple Inside ou Limbo. Et à l'inverse, des jeux de farming où tu vas passer 100 heures, ce n'est pas pour autant qu'ils valent 100 fois plus cher.
C'est sûr. Ce qui est sûr aussi, c'est que aujourd'hui, la qualité des jeux sur l'App Store pour des joueurs traditionnels, console PC comme nous, c'est beaucoup de jeux free-to-play qui sont justement avec beaucoup de farming. Donc, on espère tous que l'Apple Arcade va remonter un petit peu le niveau, mais à voir s'ils vont réussir, quoi.
Ouais, et puis après, ce que je disais, c'est que donc, si tu avais un jeu avec des ads ou des trucs achetables en jeu, les free-to-play avec des choses qui sont achetables, quand tu payes l'Apple Arcade, t'as plus ce système-là. Alors, faut voir. Enfin, c'était pas très clair, je trouve, leur
c'est des jeux. En fait, c'est des jeux entre guillemets payants. Ça peut pas être des jeux où t'as des contenus additionnels payants en jeu. C'est que, à la base, les jeux, s'ils sont pas sur l'Apple Arcade, c'est des jeux qui sont juste complets et que tu payes une fois et que t'as acheté.
C'est que les payants. C'est ça où j'étais pas sûr parce
c'est
que
ça,
il parlait aussi.
Exactement.
Ouais, ok. D'accord.
C'est ce que j'ai compris.
On va dire que ça peut peut-être être une piste pour sauver les jeux premium du mobile. Parce que là, clairement, le mobile, ce qui est le plus rentable, c'est free-to-play avec des achats.
Exactement, oui. Et c'est pour ça que j'ai été curieux de savoir ce que vous pensiez de cette Apple Arcade dans ces conditions, en tant que dev indé qui appréciait les jeux traditionnels, je pense, si ça pouvait peut-être... aider d'une certaine manière le type de jeu que vous aimez, mais bon. Espérons.
Nous, les jeux mobiles, c'est pas trop notre fort parce qu'on n'est pas aimé hyper bon en com et que finalement, pour l'instant, sur mobile, c'est ça qui fait du fou.
Mais c'est ça. Oui, non, mais c'est exactement ce que je veux dire. C'est que pour l'instant, la situation du jeu mobile est telle qu'on l'a décrite avec ces jeux free-to-play où la communication, le marketing jouent énormément et voilà. Et ce qu'on espère, c'est que l'Apple Arcade améliore un petit peu, même si ce n'est pas complètement, améliore un petit peu cette situation. Mais à voir. Vous, est-ce que vous aimeriez...
J'ai curieux de voir ça aussi.
Est-ce que vous aimeriez être disponible sur Apple Arcade du coup, ou est-ce que vous dites non, ça vaut pas le coup, c'est pas assez d'argent, ou c'est trop compliqué, ou je sais pas. Enfin bon, il est pas encore lancé, donc on sait pas et on n'a pas les conditions.
On n'est pas vraiment, on n'est pas destiné mobile et donc par contre, on parlait, enfin tu vois, pour parler.
Ouais, mais store, pardon, Apple Arcade, c'est disponible sur macOS aussi et Apple TV avec manette. Donc, ça étend un petit peu le...
Oui, ça étend. Après, il y a d'autres contraintes de développement Apple. Mmh. Mais pour parler d'autres stores, enfin, tu vois, Black Note avec son système d'abonnement, pourquoi pas être sur un store comme ça, abonnement. Moi, je pense qu'en termes marketing, en fait, peut-être que ça ne rapporte pas énorme. Mais par contre, je pense que ça ouvre ton jeu. Et alors après, c'est peut-être mon côté complètement naïf et j'ai envie que les gens jouent à notre jeu, en fait. Donc du coup, avoir plus de gens qui jouent, c'est aussi une satisfaction que de sortir un jeu où il y a très peu de gens qui peuvent le tester. Donc si passer par un store comme ça te permet de multiplier les gens qui vont jouer et qui vont tester, pourquoi pas ? Après, je pense pas que ce soit, enfin, je sais pas, hein, peut-être que si, mais se focaliser sur une seule plateforme, je sais pas si c'est très réaliste en fait. Mmh. D'ailleurs, on voit bien les jeux mobiles, ils sortent sur tout. Il y a pas, enfin, il y a quelques jeux iPhone, mais qui doivent être exclus iPhone, mais généralement après, tu vois, que si ça marche sur une plateforme, tu vas sur l'autre parce que il faut se diversifier.
Bien sûr. Oui, et tu parlais de Black Note, un service d'abonnement aux jeux vidéo.
C'est ça.
Alors, bon, continuons avec nos sujets divers. Des trucs un petit peu moins marrants, c'est un euphémisme. Il y a, depuis quelques jours, le scandale du harcèlement sexuel qu'on a vu dans de nombreuses industries ces dernières années, qui est arrivé encore plus clairement qu'avant dans le monde du jeu vidéo. Alors, il y a plusieurs personnes développeuses, principalement. On parle de trois personnes qui ont révélé des scandales assez importants. On parle de harcèlement et de viol par des personnalités du monde du jeu vidéo. Alors, ce n'est pas les plus grandes personnalités. Certains d'entre vous n'en auront sans doute pas entendu parler. Mais c'est des gens comme Jeremy Soule, le compositeur de morceaux de Elder Scrolls ou Guild Wars, Alec Holowka de Night in the Woods, Luke Shelton de Splash Damage, qui a notamment il a notamment travaillé sur Gears of War 4. Et donc, c'est des témoignages assez édifiants de ces développeuses et qui sont évidemment à la fois désolants et importants à relayer. Et je ne sais pas si on va commenter beaucoup plus que ça parce qu'on n'est pas forcément bien placé pour commenter, mais enfin, si ce n'est que pour dire que non seulement c'est évidemment des choses inacceptables, mais en plus, il est important que des personnes courageuses comme elles prennent la parole et dénoncent ce genre de choses pour que, enfin, bah, ça cesse et qu'on n'accepte plus passivement ces choses-là, parce que c'est dû évidemment à une certaine culture qui fait que, ouais, bon, ça va. Alors, bien sûr, les gens n'acceptent pas le viol, on est dans des cas extrêmes, mais le harcèlement sexuel en général, ben, ça passe aussi parce que on dit oh, c'est bon, c'est pas non plus la fin du monde, c'était une blague ou c'était machin. Ben non, c'est pas des blagues, ça a des vraies conséquences. Et en lisant ces témoignages, on est glacé de voir que c'est effectivement possible. Donc, quand on le constate, ce qu'il faut faire, c'est pas dire bon, c'est bon, on passe sous le tapis, et c'est difficile, mais il faut le dénoncer. Donc, et c'est tout bête, mais ça passe. Les premières étapes, c'est simplement quand il y a quelqu'un qui dit quelque chose qui n'est pas acceptable, eh ben, on n'est pas obligé de provoquer la Troisième Guerre mondiale, mais simplement faire la remarque, dire non, écoute, c'est pas cool. Et voilà, ça provoque peut-être une petite friction à un moment, mais à force, bah, les gens apprennent et les gens se rendent compte aussi, parce que peut-être qu'ils ont une éducation, ils viennent d'une culture où ils ne se rendent pas forcément compte. Et à force de dire « non, ça passe pas, c'est pas cool », on finit par changer un petit peu les choses. Et c'est nécessaire, c'est plus que nécessaire, et ça fait plus que... Il est plus que temps, donc Voilà, c'est terrible de le constater, mais c'est aussi important et nécessaire que ces femmes témoignent et aient le courage de porter ces sujets sur le devant de la scène, parce qu'évidemment, c'est difficile et je suis sûr que pour elles, ça va être compliqué. Mais voilà, donc on voulait le mentionner.
Ouais, et puis bah, juste rajouter qu'effectivement, là, ça vient dans le jeu vidéo, mais pour dire qu'il faut que ce soit de tous les... Enfin, ça touche tous les domaines, en fait, et tous les... Ben, partout, en fait. Y a pas, c'est pas que l'industrie de machin. J'imagine qu'il y en a dans toutes les industries et qu'il faut que ça s'arrête dans toutes les industries, en fait. Ouais. Donc, c'est bien qu'effectivement, on voit que ça touche partout, en fait. Enfin, c'est bien. C'est pas bien, mais c'est qu'il faut en parler pour montrer que c'est pas réservé qu'à un seul domaine et qu'il y en a partout et qu'il faut que ça s'arrête partout, en fait.
Un autre sujet un petit peu plus positif, des solutions au swatting. Vous savez ce que c'est le swatting, hein? C'est quand il y a quelqu'un qui stream du jeu vidéo ou qui fait du streaming de quelque chose et que des petits malins appellent la police en disant il y a une agression, enfin un homme armé qui est chez moi, et ils donnent l'adresse de la personne qui est en train de streamer. Et là, évidemment, il y a les équipes d'intervention qui débarquent et ça peut avoir des conséquences tragiques. Ça a été le cas, il y a une personne qui a été tuée il y a quelques mois. Il y a des cas de violence, enfin de résolution violente qui ont déjà eu lieu. Il y a un sergent de Seattle qui a été contacté par un streamer qui lui a dit « Écoutez, moi j'ai peur que ça m'arrive ». Et le sergent en question, qui s'appelle Sean Whitcomb, a eu une initiative hyper intéressante, c'est qu'il a créé une liste des personnes et des adresses, bien sûr, des gens qui peuvent se signaler comme étant potentiellement victimes de swatting. Et c'est hyper intéressant, j'ai trouvé ça très intéressant, parce que d'ailleurs, il y a des policiers qui l'ont fait à Wichita aussi, une autre ville aux États-Unis. J'ai trouvé ça très intéressant dans le cas de Seattle, parce que le sergent en question est un joueur lui-même, et je pense que ça a énormément joué sur le fait qu'ils comprennent la chose et qu'ils disent « bon, bah, il faut faire quelque chose ». Et on parlait de génération à l'épisode précédent, je crois, et c'est vraiment ça, c'est une question de génération. Les gens qui sont des joueurs et qui connaissent ces sujets, qui arrivent dans des positions de décisionnaires, c'est hyper important, parce que ça veut dire qu'ils peuvent prendre les bonnes décisions à ces moments-là, et on espère que cette liste sera implémentée dans d'autres parties du pays aussi. Quelques petites news rapides avant de parler un petit peu de Célion. L'international de Dota a été gagné par OG, une équipe qui avait gagné l'année dernière déjà. C'est la première fois. L'international, c'est le tournoi mondial, le championnat du monde de Dota, on va dire, de Dota 2. Et OG a gagné. Ils avaient gagné l'année dernière et ils avaient gagné. Donc, c'est la première fois qu'il y a une équipe qui gagne deux fois de suite. Et c'est hyper, d'autant plus jouissif, je dirais, que OG l'année dernière avait fait un comeback incroyable. Ils étaient partis de rien, c'est une histoire fascinante, et je vous recommande très 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 chaleureusement le documentaire qui est disponible sur YouTube qui s'appelle Against the Odds. C'est le documentaire sur le parcours de OG l'année dernière pour le The International 8, donc le championnat de Dota. Je répète le nom de la vidéo, Against the Odds. C'est une vidéo qui dure un peu plus d'une heure. C'est passionnant, c'est hyper bien fait, et c'est leur parcours. Je vous recommande très très chaleureusement, même si vous n'aimez pas l'e-sport, même si vous n'aimez pas Dota, on s'en fout, c'est juste l'histoire de ces athlètes e-sportifs qui est hyper bien racontée et qui est vraiment une très belle, un très beau documentaire.
Ah, c'est un monde assez intéressant, et en plus je crois bien que cet international a très bien marché aussi pour Dota, donc c'est un bon point pour l'e-sport.
Oui, bah c'est ça, ça s'arrête jamais. L'international le rapporte à chaque fois plus de millions de dollars.
Ah bah ça.
Tu me disais Yannick qu'il y avait des Français sur Hearthstone pour le dernier championnat là, il y a quelques semaines.
Ouais, tout à fait. Il y a eu les Grandmasters Séoul, du coup sur la nouvelle extension d'Hearthstone qui vient de sortir. Et dans les quatre premiers joueurs, il y avait trois Français. Donc c'est une bonne perf, et d'ailleurs c'est un Français qui a gagné.
Bien joué, bravo la France.
Bon, c'est ça, on représente au moins sur Hearthstone.
Bah d'ailleurs, il y a l'équipe de Overwatch World Cup qui est formée là, l'équipe de France. Et comme je serai à la BlizzCon, je pourrai aller les applaudir. J'espère qu'ils feront un beau parcours.
Mais ils vont passer l'année prochaine. Ils seront au Zénith de Paris. Ils vont jouer,
alors ça. Oui, ça, c'est l'Overwatch League qui est différente de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est ce qui se passe à la BlizzCon tous les ans. L'Overwatch League, c'est la Ligue. Et effectivement, en 2019, ils joueront au Zénith à Paris, l'équipe de France, l'équipe de Paris plutôt, qui est différente de l'équipe de France. Et ils joueront au Zénith. Moi, malheureusement, je suis en Finlande, donc, mais peut-être que je pourrais aller voir quelques matchs, un passage à Paris. Je vérifierai le calendrier, en tout cas. Rapidement, les news suivantes. Il y a encore des mises à jour pour Battlefront 2. Et je voulais le mentionner parce que on ne parle de ces jeux qu'au moment où il y a des énormes scandales. Et on n'en parle plus trop quand ils continuent à gérer le jeu et à ajouter du contenu. Et je voulais saluer le fait que sur Battlefront 2, bah, ils ont continué, ils ont bien géré les choses. Et je trouve que c'est positif, même s'il a été, il est arrivé dans ce monde dans la douleur avec des scandales, bien sûr, justifiés. Mais ils ont continué à faire les choses comme il fallait. Donc, je voulais le mentionner. Et à propos de scandale et de lootbox, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo de promotion de NBA 2K20, mais c'est assez invraisemblable. C'est pour le mode My Career, je crois, qui est en fait une sorte de mode FIFA Ultimate Team de FIFA, mais pour NBA 2K. Et ils ont une vidéo de promotion où ils font la promotion du mode My Career, où on achète des packs de cartes. Et ils ont mis une imagerie qui est invraisemblable, qui fait partie du jeu, avec des machines à sous, des trucs comme ça. Et dans un monde où la controverse des lootbox est liée au jeu d'argent est si forte, je ne comprends pas ce qui est passé par la tête de NBA 2K. C'est incroyable de faire une vidéo de promo de ce type-là. J'étais estomaqué de voir ça. Et l'équipe de communication de 2K, je crois qu'ils vont se faire un petit peu taper sur les doigts. Mario Kart Tour, la version mobile de Mario Kart arrive le 25 septembre sur nos appareils iOS, si je ne m'abuse. Je ne suis pas sûr qu'ils arrivent sur Android aussi.
C'est dit Android aussi, hein.
Ah d'accord, alors Android aussi. Je vous avoue qu'en voyant les images de ce Mario Kart Tour, je me suis dit ça a l'air quand même assez triste. Triste, pas parce que le jeu a l'air très beau, mais au niveau du gameplay, ce qu'on voit, c'est simplement un pouce qui bouge un petit peu à droite, à gauche. Et c'est certainement, peut-être que quand on l'aura entre les mains, ça sera plus sympa, mais à voir, c'est pas hyper excitant. Mais je suis sûr que Nintendo a adapté le gameplay comme il faut, quoi. Mais...
À mon avis, ça doit être super précis sur les mouvements du pouce, mais le feeling ne doit pas être aussi bien qu'avec une manette.
Ouais,
après,
c'est un problème, ouais.
Moi, ça m'étonne que ça ait pris si longtemps à être adapté sur mobile, parce que c'est Nintendo, mais n'importe quel autre jeu l'aurait fait plus vite. Oui.
Vous vous souvenez de Aladdin et Lion King et tous ces jeux de l'époque des 16 bits, eh ben, ils vont être remasterisés ou plutôt amenés dans une collection par Disney classique cet automne. Et la grande question, bien sûr, c'est est-ce que ça sera la version Mega Drive ou Super Nintendo de Aladdin ? Les anciens se souviennent de ce débat.
Ça sera peut-être une version live action avec des vrais acteurs.
Numérisé à partir de photos du film avec Will Smith, exactement. Mais oui, en fait, Aladdin, le truc, c'est que pour répondre à la question, c'est l'un des rares jeux dont la supérieure version était effectivement la version Mega Drive. C'est triste à dire parce que moi, je suis plutôt Nintendo, mais oui, il y en a peu, mais Aladdin, c'était le cas. Je pense que ça va créer plus de commentaires que les controverses sur World of Warcraft, ce commentaire. PlayStation Plus pour septembre, il va y avoir Batman Arkham Knight, super jeu, j'ai adoré, je l'ai fini de fond en comble, je crois que j'ai fait tous les, ou presque tous les petites missions annexes, pas les trucs du Riddler, c'était le truc que j'ai pas fait, et Darksiders 3 qui est sorti cette année, si je ne m'abuse, ou c'était l'année dernière.
Oui, ça fait un petit flop ça.
Je ne sais pas si c'était vraiment un flop. Il y a des gens, en fait, les gens qui l'ont aimé l'ont beaucoup aimé. Et c'est encore un des jeux où je me suis dit, je ne vais pas l'acheter parce que mais je serais content d'y jouer avec mon abonnement PlayStation Plus. Il est sorti l'année dernière, en fait, en fin d'année dernière. Et dernière news, Telltale Games a été ressuscité, alors sans une partie de ses licences phares, mais il y a des développeurs qui ont réuni les investissements nécessaires pour ressusciter Telltale, ce qui après la fin un petit peu tragique du studio est bon, à la fois une bonne nouvelle et à la fois un moment où on se dit « Ah ok, bon, tout ça pour ça, en fait, ils reviennent ». Et j'imagine que les développeurs ont déjà trouvé du boulot ailleurs, etc. Mais bon, Telltale revient. Ouais, pardon.
Ouais, bah, c'est une bonne nouvelle, mais ils avaient quand même des problèmes objectifs et il faut qu'ils se réinventent un peu s'ils veulent retrouver une nouvelle jeunesse.
Bah, je pense que c'est le nom qu'ils ont récupéré et sans doute le style de jeu, mais les dirigeants ne seront plus les mêmes, les développeurs ne seront plus les mêmes. Je crois que oui, clairement, ils ont besoin de changer les choses et bah, les choses ont changé de fait, quoi. Bah écoutez, avant de se quitter, je voudrais quand même qu'on fasse un petit retour sur votre développement, votre jeu. Pour ceux qui s'en souviennent pas, on avait parlé de Célion et de votre parcours dans l'épisode 90, qui était un épisode spécial de l'été dernier. Et à l'époque, vous étiez, ben, au début de votre aventure. Ça faisait quelques mois que vous étiez lancé, peut-être même un petit peu plus, mais en tout cas, la société était en cours de création, vous veniez de la créer et vous commenciez à recruter. Je vais vous poser la question très simplement. Où vous en êtes? Comment ça va? Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Dites-moi tout. Quels sont les détails de Sentry Games?
Bah, je vais parler de Sentry Games et puis Yannick parlera de Célion. Alors du coup maintenant on est 6. Effectivement, tu l'as très bien résumé.
Incroyable. Non mais attends, 6, vous êtes. C'est marrant parce que à l'époque vous étiez vraiment, enfin deux avec.
On était deux. Ouais, il y avait notre directeur artistique qui n'était pas encore recruté, effectivement, donc ça faisait trois. Le directeur artistique, Julien, a donc été embauché en CDI au 1er août. Et on a eu l'opportunité d'avoir deux jeunes qui ont fait un stage de fin d'année qui sortait de l'ESRA, une animatrice et puis un modeleur 3D, qu'on a embauché dans la foulée début 2019, et une level designer qui vient du monde de WoW aussi, qui a beaucoup joué au MMO et qui connaît très bien le domaine, qui est venu renforcer l'équipe dans la foulée, c'est pareil, septembre ou octobre 2018, et embauché début 2019.
Donc, on le rappelle, pour le jeu, c'est un jeu de boss battle, c'est un petit peu les jeux, les combats de boss dans les MMO, et vous vous concentrez sur cet élément, et c'est pour ça que tu parles de MMO et on en parle tout à l'heure.
C'est ça, exactement. Et donc voilà, donc on est 6 et le jeu est jouable. On a une page Steam et voilà. Donc je vais laisser.
Mais attends. Ouais, côté business, moi j'ai quand même des questions importantes. Vous étiez en train de courir les banques et d'essayer d'avoir du financement. Êtes 6, c'est des gens qu'il faut payer. Des prises de tête pour un dirigeant d'entreprise. Vous avez réussi à trouver du financement? C'est par les banques? C'est par
C'est par nos petits bras musclés. En fait, on a eu une levée de fonds avec du Love Money, donc c'est des proches qui ont mis de l'argent dans la société, qui sont investisseurs. Donc en fait, aujourd'hui on dit qu'on est deux cofondateurs, mais en fait il y a 13 investisseurs en tout dans la société. On a fait des prêts d'honneur, donc c'est des prêts à titre personnel. Donc là c'est Yannick et moi qui nous sommes engagés personnellement sur des grosses sommes, et on met l'argent dans la société en fait, mais par contre on doit le rembourser à titre perso.
Donc si vous êtes responsable si jamais...
La dette est toujours là, c'est ça.
Ouf, ouais, d'accord.
Et ensuite, on a eu la chance d'avoir une banquière à la Société Générale qui nous a suivis sur un tout petit prêt, qui nous a permis d'arriver jusqu'ici et de débloquer énormément de choses parce qu'il y a des dossiers qui prennent beaucoup de temps. Et grâce à ça, on a en fait pu débloquer plein de dossiers d'aide de la région, etc. Et c'est encore en cours. Et voilà, donc maintenant je viens rôder à l'écriture de dossiers et demande de subventions et d'aide, d'avances remboursables. Mais voilà, donc on est sur la bonne voie. Il y a des choses qui sont plutôt très positives dans la partie gestion de la société. On est toujours à courir les banques et à chercher des financements. D'ailleurs, s'il y a un investisseur qui passe dans le coin, n'hésitez pas à nous contacter. Et donc, mais le jeu, on a pu avancer du coup, enfin l'équipe a pu avancer sereinement sur le développement et la partie business est quand même plutôt bien avancée et on est assez confiant.
C'est vachement bien, mais du coup, essentiellement, c'est de l'investissement personnel, quoi. C'est vous qui avez mis vos billes et vous êtes du coup, c'est vous qui prenez les risques, quoi. C'est
ça. On est, c'est à 80% ou 90%, c'est nos sous perso. Ouais.
Oh là là, c'est hyper courageux. Je suis très admiratif. Du coup, bon, vous devez croire au produit quand même à fond, quoi. Vous dites que c'est un super bon jeu et que ça va marcher.
Ah ouais, bien sûr. Bah, ça vaut pas le coup de se lancer si c'est pas pour y aller à fond. Et c'est vrai que là, pour l'instant, on a bien rentabilisé notre année et demie, mais ça fait pas si longtemps que le jeu est vraiment jouable et qu'on peut voir qu'effectivement, il y a du public potentiel, que les joueurs s'amusent bien dessus et qu'on a moyen d'en faire quelque chose. Là, typiquement, on a pu mettre au point un premier boss bien ficelé, avec une classe assez complexe, avec 9 façons de jouer différentes.
Ah, vous avez 9 façons de jouer, tu veux dire qu'il y a 9 classes différentes dans le jeu ?
Non, il y a une classe avec une mécanique au cœur de cette classe-là, qui est une espèce de gestion de ressources qui déclenche une phase différente pendant 15 secondes. Et d'accord, ensuite, okay. Quand on choisit les sorts de son personnage, on peut en prendre 8 pour l'instant, et on en prend un qui définit ce qui se passe pendant cette phase-là. Et du coup, la ressource reste tout le temps la même, mais il y a plusieurs effets différents qui peuvent arriver après, en fonction du rôle qu'on veut jouer ou de son style de jeu. D'accord. Et c'est là qu'on a 9 variantes de la même classe.
Ah oui, d'accord. Donc même sur la même classe, on a un certain nombre de manières de l'appréhender, quoi.
Ouais, c'est ça. L'objectif aussi du jeu, c'est que vu qu'on... on a ce côté gameplay MMO sans niveau, sans stuff. On est beaucoup plus souple et on veut encourager aussi les joueurs à adapter leur style de jeu en fonction des challenges qu'ils affrontent. Et ça, on peut se le permettre parce que les joueurs peuvent changer quand ils veulent sans perte. Sur un vrai MMO, tu vas mettre ton stuff d'intelligence. Tu vas être obligé de jouer sort, par exemple.
Oui, bien sûr.
Du coup, c'est ça. Et donc, on commence à jouer... Enfin, ça fait quelques semaines qu'on joue avec les joueurs tous les mardis. D'ailleurs, tu nous as envoyé plein de monde.
Ah oui, c'est vrai. L'année dernière, après l'épisode.
On a accueilli plein de personnes.
Et on ne les a pas prévenus qu'on venait faire une émission, donc je pense qu'ils vont, être ravis de nous entendre.
Super, ça me fait très plaisir.
On joue tous les mardis soirs. Et maintenant, sur ce boss-là, on a mis en place le mode Hunt, qui est un mode où le boss devient de plus en plus dur et on est classé en fonction de ça. À chaque fois qu'on gagne, on gagne un certain nombre de points et du coup, le boss suivant sera plus dur, il aura plus de vie, il fera plus de dégâts. Et en plus, il y a une vingtaine d'affixes qui sont des modificateurs du combat. Et ça, on va en prendre aléatoirement en fonction de la difficulté. Par exemple, ça peut être que... il y a le combat classique et en plus, si les joueurs sont trop proches, ils vont prendre des dégâts ou alors le boss va faire un sort en plus de temps en temps. Ce qui rend le truc assez souple et on s'amuse bien à monter les classements le soir. On a même réussi à atteindre des niveaux assez durs. On devait s'y reprendre une petite quinzaine de fois avant de réussir le boss. On retrouve vraiment bien les sensations MMO et ça, on est super content parce que c'est notre principal objectif.
C'est marrant parce que vraiment, pour le coup, vous êtes. On parlait de WoW Classic tout à l'heure. Vous prenez toutes les parties plaisir des combats de boss et des raids et tout ça, et vous supprimez tout le reste, quoi. Pour le coup, c'est l'évolution ultime du MMO. C'est juste, on plonge dans le fun, entre guillemets, dans la partie fun et tout ce qui est. Contraintes et donc les autres aspects de ces contraintes qui peuvent être positifs socialement pour les joueurs, là c'est juste les combats. C'était vraiment l'intention dès le début, quoi.
Oui,
et de façon même plus complexe qu'il y a dans WoW classique, puisque, alors je m'en souvenais plus comme ça, mais c'est vrai que les boss de WoW classique, c'est pas hyper compliqué.
Ouais. C'est vrai que la complexité des boss de WoW classique, c'était un peu, moi qui jouais mage dans Molten Core, c'était Sulfuron, je sais plus, mais il y avait un boss où tout ce que tu devais faire en tant que mage, c'est des curses sur tous les joueurs de ton raid, et c'est la seule chose que tu devais faire. Et si tu plantais, bah il y avait deux joueurs qui pouvaient mourir et t'étais mort.
Ah c'est ça. Bah, du coup, c'est déjà plus compliqué que ça. Et l'objectif, c'est vraiment de faire de la compétition, donc d'être exigeant au niveau difficulté, exécution. Et là-dessus, on y arrive bien. Donc c'est un point très positif. Et un autre point positif, c'est qu'on a déjà des joueurs qui ont commencé à se faire la main sur l'éditeur de niveau.
Vous avez un éditeur de niveau inclus ?
Ouais, mais en gros, c'est pas moi qui fais les boss, on a recruté une level designer qui s'en charge. Et pour ça, elle utilise l'éditeur du jeu, donc qui a bien évolué au cours des 2 ans écoulés. Et maintenant, il est assez souple, il permet de faire quand même pas mal de mécaniques, ce qui fait que nous, on a pu faire tous nos boss et la classe du jeu rien qu'avec l'éditeur. Et celui-là, on le distribue aux joueurs, donc ils peuvent eux aussi faire leur boss. On a testé celui d'un joueur mardi, et il s'en est super bien tiré, alors qu'on n'a pas encore eu le temps de faire de tuto ou de doc, juste en s'inspirant de la manière dont on a créé notre boss à nous, puisqu'on laisse les joueurs regarder à quoi ressemble l'éditeur. Il a pu recréer plein de mécaniques et ça marche plutôt bien. Je suis assez fier de lui.
C'est super. Et du coup, vous pensez avoir... vous parliez d'une partie PVPVE ou PVEVP, c'est toujours d'actualité ou...
C'est d'actualité, oui, mais avant de la mettre en place, il faut déjà qu'on ait la partie PVE toute seule, solide.
D'accord.
Du coup, comme il y a beaucoup de boulot encore, on ne rush pas ce mode de jeu-là. Mais c'est dans notre comment on appelle ça, notre roadmap.
Votre roadmap, ouais.
C'est l'ADN du jeu, mais c'est sûr que il y a ce côté aussi PVP-VE qui fait que ça va diviser la communauté. Enfin, on va avoir du coup ces deux équipes de 4 qui vont s'affronter, donc ça fait forcément 8 joueurs à devoir mettre en relation. Et dans un jeu où pour l'instant on n'a pas beaucoup de monde, trouver 8 joueurs, ça peut être compliqué. 4, c'est déjà plus facile. Donc il faut pas brûler les étapes, c'est dans notre roadmap, c'est sûr, c'est l'ADN de Célion, c'est ça, hein, c'est le mode Rift, c'est ce mode-là compétitif, mais il n'empêche qu'il y a plein de choses avant à faire et d'expérience, parce qu'on vient d'une boîte qui a déjà fait du jeu vidéo, d'expérience, on sait qu'il faut faire petit et viser grand, et aujourd'hui on solidifie notre core gameplay en fait. On est en train de la brique de base, si on fait pas les bonnes fondations d'une maison, elle s'effondre, et là on est en train de solidifier les fondations et ça commence à être bien solide et c'est assez plaisant.
Bon, j'imagine que vous avez d'autres classes, plein d'autres boss à continuer à développer. Est-ce que vous commencez à avoir une idée du moment où vous commencerez à voir la fin, ou c'est vraiment c'est trop tôt pour ça? Je te demande si vous avez une date de sortie, en fait, c'est ça?
Oui, oui.
mais j'imagine que c'est peut-être un peu trop tôt encore.
En fait, l'idée, c'est vraiment de faire un jeu sur la durée dans lequel, nous, on va rajouter des boss et des classes en continu. Ce qui fait que ce n'est pas tant le nombre de boss qui va définir la date de sortie, mais c'est plus les features. Et du coup, pour être parfaitement transparent, les features qui restent à faire, c'est... tout un système de progression, du coup un niveau de perso mais cosmétique comme il y a dans LoL ou dans HETS, et puis un système de crafting avec du stuff à débloquer, un minimum. On est sur tout un pan du jeu qui va reproduire un peu les sensations de farming qu'il y a dans les MMO, sans que ce soit lié à la puissance du personnage. C'est qu'il y a juste un système de ressources à aller récolter dans le jeu, dont on sert pour faire du crafting, pour améliorer des bâtiments, pour développer des métiers. Et c'est ça la grosse...
Mais tu veux dire que tout ça, ça serait du cosmétique quand tu dis ça ne va pas lier la puissance
du personnage? Oui, c'est du cosmétique.
Et des bâtiments et des métiers, tu l'as mentionné, mais Ils sont où les bâtiments et à quoi ils servent les métiers?
Alors en fait, on est parti sur un système narratif un peu différent, puisque on n'a pas forcément la force pour faire vraiment des belles cinématiques, une grosse campagne. Du coup, ce qu'on fait, c'est par zone du jeu plus un générique, on fait des sphériés. Et en gros, le but du joueur, ce sera d'avancer dans ce sphérié pour
des sphériés, pour débloquer... Excuse-moi, c'est quoi les sphériés?
Alors, un sphérié, c'est un arbre avec des petites boules sur les branches. Et en
ah
gros,
oui, d'accord, ok.
T'avances le long des branches et ça vient des Final Fantasy et de ces systèmes-là. Mm-hmm. Notre idée, c'est d'utiliser ce sphérié-là pour simuler un système de crafting dans le sens où pour débloquer la sphère suivante sur une branche, il faudra réunir les matériaux de craft qui correspondent et donc potentiellement aller faire des boss ou développer un métier qui est aussi une autre partie du sphérié qui représente des bâtiments qu'on construit dans notre ville, des connaissances du métier qu'on améliore et tout ce qui est débloquable en termes de cosmétiques est présent dans le sphérié. Ce qui fait que c'est l'outil principal de progression du joueur et que on s'en sert pour faire une action où la progression dans le sphérié va raconter une histoire. Mmh. En fait, telle grosse branche du sphérié, ce sera une quête, donc avec des embranchements narratifs qu'on dévoile petit à petit. Et à chaque fois qu'on débloquera, on aura un petit bout de l'histoire. Et comme ça, on aura plein d'infos sur notre univers. C'est un système qui ressemble pas mal à ce qu'il y a dans Gwent. Et ça marche plutôt bien.
D'accord. Donc vous vous êtes pas dit à un moment, bon peut-être pas, on va foutre des loot box, mais encore que peut-être que vous voulez mettre des loot box, mais vous mettre des battle pass. Vous, parce que là, je sais pas comment vous allez. Est-ce que vous allez monétiser en tant que jeu service, parce que vous me disiez on va rajouter des boss, ou est-ce que vous vendez le jeu et puis c'est fini une fois qu'il est vendu, il est vendu.
On vend le jeu. Pour l'instant, une fois qu'il est vendu, il est vendu, avec potentiellement des extensions. Mais il faut savoir qu'on n'est pas dans une dynamique d'énormes jeux qui va être visible de tout le marché dès sa sortie. Mmh. On sait que nous, même 6 mois après, si le jeu s'est bien amélioré, on a encore moyen de vendre le jeu de base à énormément de gens qui n'ont jamais entendu parler de nous. Mmh. Parce que on va conquérir le marché très petit à petit.
Ouais, d'accord.
Donc, le fait que ce soit payable en une fois ne pose pas de soucis avec le fait de développer du contenu gratuit. Mais en gros, voilà. Il faut faire ce système de progression-là qui est important aussi pour que le joueur ait une motivation à jouer. Et aussi que comme on a du public de MMO, reproduire ces mécaniques-là, c'est bien pour les sentiments de progression et de récompense.
Ouais, il faut avoir le sentiment de progression, c'est hyper important. Ouais.
C'est ça. Du coup, quand ce gros morceau-là sera fini, on se rapprochera de la sortie, et après, il y aura éventuellement le mode Rift. Mmh. Et puis, bien sûr, pas mal de debugs, optimisations,
petites
améliorations du jeu.
Et du coup, ouais, juste pour répondre pour la date de sortie, on a une idée de la date, mais on la communique pas trop. Dans le sens où on ne veut pas être non plus lancer une date et finalement être en retard. Donc, on a plusieurs. En fait, on a plusieurs jalons. On pourrait sortir le jeu à plusieurs moments différents. Ça va dépendre beaucoup des financements, de ce qui va se passer dans les semaines et mois à venir. Ce qui peut décaler en plus ou en moins, en fait. Là aujourd'hui, on sait qu'on a voilà, ça va. Et puis ça va dépendre aussi. Ça dépendra du coup si on sort plus tôt, le jeu sera peut-être moins cher. Si on sort plus tard, on pourra le sortir avec tout le contenu. Enfin voilà, on l'avance un peu comme ça plutôt que d'annoncer une date et de se décaler après.
Après, pour le joueur, ça ne change pas grand-chose pour l'instant, puisqu'il y a une bêta ouverte et que s'il veut venir tester, il n'a pas nécessairement à attendre. Il faut juste venir sur notre Discord et puis participer à une des sessions du mardi soir. On envoie une clé.
D'accord. Bon, c'est bon à savoir, effectivement. Ah merde, j'avais une question et elle m'a complètement Elle m'est sortie de l'esprit. Bon, c'est pas grave. Ça devait pas être si important que ça. D'accord. Ah oui, si, si, ça y est. Vous pensez pas faire d'early access, du coup ? Vous, quand le jeu sera en état de sortir, il sortira ? Ou c'est quand même une option, l'early access ?
Ça reste une option. D'accord. On ne peut pas se dire qu'on ne va pas le faire parce que ça reste une option viable pour faire comprendre aux joueurs que le jeu n'est pas fini aussi. Mmh. Donc voilà, c'est, si jamais on avait eu effectivement un an et demi ou deux ans de visibilité de trésorerie, j'aurais peut-être dit bah non, on va sortir le jeu fini. Mmh. C'est pas le cas aujourd'hui. Et même si j'aimerais bien, hein, ce serait cool.
D'accord. Ok, très bien. Bah écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Est-ce que vous voulez dire avant qu'on se quitte où les auditeurs peuvent retrouver notamment le Discord s'ils sont intéressés? J'imagine ouais. Que c'est sur playcelion.com.
C'est ça. En fait, s'ils vont sur playcelion.com, c'est une page très standard avec tous nos réseaux sociaux, les liens vers la page Steam et le Discord. Et donc, comme disait Yannick, s'il y a des joueurs qui sont intéressés par du PVE de boss, donc de l'instance en fait, qu'ils n'hésitent pas à passer sur le Discord de Sentry Games et ils trouveront des joueurs et nous. Et on pourra distribuer des clés le mardi soir pour qu'ils viennent tester avec nous.
Super. Bon, Célion, c'est C-E-2-L-Y-O-N, mais c'est le ça. Plus simple, c'est que vous alliez dans les notes de l'émission, il y aura le lien vers le Twitter de Sentry Games et vous pouvez trouver le Discord et toutes les infos à partir de ça. Super.
Écoute, merci beaucoup.
Merci à tous les deux. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram, bien sûr. Vous pouvez retrouver cette émission sur frenchspin.fr. Vous trouvez aussi le rendez-vous tech, évidemment. Si vous avez donc des choses à dire, comme je le disais tout à l'heure, sur tous nos commentaires sur World of Warcraft classique, si vous avez bouillonné, n'hésitez pas à venir commenter. Si vous avez des commentaires sur d'autres choses ou même sur Célion, vous pouvez venir poser les questions ou dire des choses sur frenchspin.fr, évidemment. On vous fait de grosses bises et on se retrouve dans une semaine, non, deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao à tous.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.